femme. Nous te prions pour un cœur qui s'humilie, pour un cœur pur, et aussi pour un esprit réveillé. Ce soir, donne-nous tous la vie, donne-nous tous la lumière. Souffle par le souffle de la vie, envoie ta parole et rends-nous tous sains. Amène-nous dans ton royaume. Merveilleux, loue le Seigneur. C'est si bien qu'on puisse mettre du temps à part. Pour laisser la parole du Seigneur être écrite dans nos cœurs. Le Seigneur aimerait nous parler. D'un côté, c'est que le Seigneur parle. Et nous prions que le canal d'envoi fonctionne pendant ce temps pour que le Seigneur puisse vraiment nous parler. Ça, on en a besoin. Mais d'un autre côté, c'est que nous entendions que le récepteur fonctionne. Nous tous sommes là. C'est si important que nous donnons notre cœur au Seigneur. Je sais que nous venons tous du travail. Peut-être quelques-uns aussi travaillé ce matin. Et aujourd'hui, 3-4 heures sont venus en voiture ou bien venus en train. Ou bien encore venus depuis Corée avant-hier. Chacun un chemin. Il y a déjà eu quelque chose qu'il a fait pendant la journée ou bien encore quelque chose à faire. Mais j'espère que pendant ce soir, on peut encore se tourner et dire au Seigneur, donne-moi une oreille pour entendre. C'est trop dommage si le Seigneur parle, mais je ne l'entends pas. Seigneur, donne-nous vraiment une oreille. C'est pour ça qu'on a besoin d'un esprit réveillé et aussi un corps réveillé, qui est veillant. L'Esprit du Seigneur, il rend les corps mortels vivants. J'espère que nous avons tous part à la résurrection du Seigneur ce soir. Et que notre corps soit aussi vivant pour qu'on puisse entendre la parole du Seigneur. Et que nous puissions garder sa parole dans nos cœurs. Le Seigneur aimerait nous préparer. Et pas seulement pour quelque chose, mais pour sa venue proche et pour la venue de son royaume. C'est de très grands mots. Depuis que le Seigneur, il y a 2000 ans, il est monté en ascension de la montagne des Oliviers, tous les croyants attendent la venue du Seigneur à chaque époque. Tous les apôtres ont écrit, ils croient et espèrent que le Seigneur vienne. Et maintenant, on joue très probablement dans le temps où cela va se passer dans tout ce qu'ils ont attendu. Louez le Seigneur. Je crois. Il y a beaucoup qui auraient donné de pouvoir vivre pendant ce temps. On vit vraiment dans ce temps. On vit dans un temps qu'on peut vraiment espérer que la venue du royaume du Seigneur puisse vraiment bientôt le voir. Ça, c'est une très grande chose. Louez le Seigneur pour cela. De voir le Seigneur quand il vient. Quand le Seigneur vient, à son retour, c'est différent que lors de sa première venue. La première venue du Seigneur était pour le salut. Le Seigneur, il est venu naissant d'une femme. Il est venu si pas visible dans ce monde que quasiment personne ne l'a remarqué. C'était si caché. Mais quand le Seigneur revient, ce sera totalement différent. Je lis un verset de Matthieu 24. Comment est-ce que c'est quand le Seigneur revient? Matthieu chapitre 24, verset 27. Verset 27, il est dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Quand le Seigneur revient, il revient comme un éclair. C'est la nuit, mais ce sera le jour d'un coup. Ce sera ainsi quand le Seigneur revient bientôt. Il ne revient plus de manière invisible, il ne vient plus d'une manière cachée. Le Seigneur y revient comme un éclair. Il va tout éclairer de l'Orient jusqu'en Occident. Et son signe sera, on le verra dans le ciel. Au verset 30, il est dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Ça, on va probablement le voir bientôt. Le Seigneur va venir avec puissance et avec beaucoup de gloire. Puissance, une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette. Il y aura beaucoup d'anges. Avec toute une armée. Et ils rassembleront les 4 vents. Tous ses élus. Il y a beaucoup de choses qui montrent qu'il y a. Ce sont encore jamais passés. Personne n'a encore vécu cela. Exactement pour cela, le Seigneur nous prépare. C'est si glorieux quand le Seigneur vient. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, cet avertissement qui est écrit pour nous, les croyants. C'est pour nous, les croyants. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1, il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » C'est pas attendu. Il dit ensuite, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, au verset 4, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Paul écrit de la corruption, au verset 3. Ils disent paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Ils parlent d'une ruine, pourquoi? La venue du Seigneur aussi beaucoup à voir parce qu'il vient pour juger. On peut lire dans Hébreux. Là, il parle aussi de sa venue. Il dit, Hébreux 9, le dernier verset, verset 28. Apparaîtra sans péché, la fin du verset, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Le Seigneur ne va pas revenir pour le salut, pour les péchés, mais il viendra pour les élus qu'il a, pour qu'ils puissent recevoir son royaume et pour les sauver, pour ceux qui l'attendent. Et pour ce monde, sa venue sera totalement différente. Quand le Seigneur revient, alors tout le monde se changera. Et il est dit dans Apocalypse 19, on va juste lire quelques versets par rapport au retour du Seigneur, pour plus avoir ce sentiment, qu'est-ce qui va se passer quand il revient. Apocalypse 19, verset 11, il dit: Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. La venue du Seigneur, c'est aussi une venue pour un jugement. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, verset 12. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtu d'un fin lin blanc pur. Il y a une armée. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est une apparition totalement différente de la première fois. Là, il dit: Il foudra la queue du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Nous ne devons pas penser que Dieu a seulement un bon côté doux. Dieu aime les hommes. Il y a aussi un jour de la colère de Dieu. Quand le Seigneur vient, alors ce temps viendra aussi où toutes les nations et tous les hommes devront expérimenter ce jugement. La venue du Seigneur est vraiment totalement différente. C'est bien de lire de tels versets pour comprendre qu'est-ce qui vient, pour avoir une impression. Qu'est-ce qui va vraiment se passer? On a tant de représentations, mais beaucoup d'entre ces représentations ne sont pas réelles. Qu'est-ce qui va se passer avec nous croyants? Les nations, le Seigneur viendra pour juger les nations. Dans 2 Corinthiens 5, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Verset 10, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Là, il parle de ce qui va nous arriver. Il dit, 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et ensuite, il dit le verset d'après: « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Quand le Seigneur vient, alors on doit tous passer devant le tribunal de Christ, on doit tous comparaître, on doit tous se tenir devant le Seigneur. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le retour du Seigneur, c'est un jugement pour les nations, mais c'est aussi un jugement pour tous les croyants. Ça, on doit le savoir. C'est si important. C'est pas pour faire peur à quelqu'un ce soir, mais c'est la réalité. On doit connaître la vérité. Puisse vraiment avoir ça en tête. Le Seigneur vient en jugement pour les nations, mais aussi pour juger tous les croyants. Et si le Seigneur nous amène tous devant lui, qu'est-ce que c'est comme jugement? Il dit que chacun reçoive le bien ou le mal. Il en vient d'un salaire. Pour résumer, il y a deux jugements. Il y a ici, le premier quand le Seigneur vient. Retour du Seigneur, de Christ. Là, il y a un jugement pour les croyants. Ce jugement-là, il en vient d'une rétribution ou d'une punition. Selon le bien ou le mal qu'il aura fait. S'il a fait quelque chose de bien, il recevra une récompense. Si tu as fait du mal, c'est pas que tu reçois rien, mais tu reçois une punition. C'est normal. Et ce jugement-là, il a à voir avec quand il revient, il y a le royaume des mille ans qui commence. C'est ce royaume qui vient sur la terre. C'est sur la terre. Et dans ce royaume, ça sera ainsi que quelqu'un croyant, ils reçoivent une récompense. Ils vont recevoir avec le Seigneur une récompense. Et d'autres croyants, c'est vraiment des croyants, pendant ce temps, ils devront subir une punition très importante parce que cela va se passer. Et ce jugement va bientôt venir. Et à la fin des mille ans, il y a encore un jugement pour toutes les nations, pour les incroyants, pour les non-croyants. Là, la Bible parle du grand trône blanc parce que ce jugement, là, il en vient pour la condamnation éternelle. Ou bien pour la vie éternelle.
Amen.
Ça, c'est la décision là. Pour les hommes qui ne croient pas encore au Seigneur, il en vient la condamnation éternelle ou la vie éternelle. Pour nous, les croyants, il en vient de la récompense ou de la punition. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça qu'il est si important que nous préparions pour la venue, le jour du Seigneur. Nous ne devons pas avoir une représentation de la venue du Seigneur. On doit vraiment voir ce que la parole dit. C'est pour ça qu'il est dit là, au point B, la nécessité de préparer la venue du royaume. Là, il y a deux lignes de versets afin que chacun qui l'a encore entendu, ou même nous qui l'avons déjà entendu, mais qui sont plus si conscients, puisse vraiment nous rendre conscients. Qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur vient? Et si nous avons vraiment cette conscience pour cela, je suis sûr que quelqu'un qui est conscient de cela, il a aussi une crainte. Le verset d'après, dans 2 Corinthiens 5, il dit « Connaissons donc la crainte du Seigneur. » Quand il en vient du jugement, c'est égal si tu as raison ou pas, tu as de toute façon ta peur. Si la police, elle est dans la rue, on a déjà peur. Ou bien directement, tu regardes ta vitesse, tout d'un coup, tu es très attentif, tu regardes si tu as de la ceinture, s'il y a tout qui est bien, tu as peur, tu es sobre. Si cela est vraiment vivant dans notre cœur et clair, alors il y a une crainte du Seigneur dans nos cœurs. On ne doit pas penser, oh la crainte, qu'est-ce que c'est? Dieu est amour. Pourquoi est-ce qu'on parle de la crainte? On aime le Seigneur. Je crois que Paul aime vraiment le Seigneur, il le connaît aussi. Et même là, parce que comme il connaît le Seigneur, il dit, connaissons donc la crainte du Seigneur. Ça c'est bien pour nous, c'est pour ça qu'il est au point C, il est dit, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que vous tremblez en pensant à cela? 1000 ans, une récompense, une punition. Si je savais que je devrais aller 5 ans en prison, je serais totalement différent. Mais ici, c'est 1000 ans. Et ça, Paul l'a aussi dit dans Philippiens 2. Paul a vraiment vu qu'est-ce qui vient. Et ça, c'est si important qu'on voit clairement et encore plus clairement qu'est-ce qui va se passer quand le Seigneur va apparaître, afin que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur. Ça, c'est l'avertissement. Philippiens 2 dit, pour cela, mes bien-aimés, il y a bien cet amour, mais aussi cette crainte. Comme vous avez tout le temps obéi au Seigneur, mettez en salut, votre salut avec crainte et tremblement. Je crois, si on n'a pas la crainte et le tremblement, on ne sera pas vraiment préparé. Si tu as un examen dans ta vie, c'est égal à l'école, dans tes études. Mais si tu n'as pas de crainte, la probabilité est très grande que ça n'ira pas très bien. C'est normal et sobre. Si on a la crainte du Seigneur aujourd'hui, pas avoir une panique d'une manière négative, mais d'être conscient, je dois me préparer. Je dois racheter mon temps, le temps que j'ai. Si on connaît la crainte du Seigneur aujourd'hui et qu'on tremble, louez le Seigneur, alors on peut là recevoir une récompense. Le Seigneur dit, si aujourd'hui on ne se prépare pas, nous ne nous préparons pas, alors pendant ce temps de punition, il y a beaucoup de grincements de dents. Mais ça, ce n'est pas un bon tremblement. C'est si important de connaître la crainte du Seigneur. Hébreu a aussi parlé de cela. Il faut se dire dans Hébreu 4. Il dit, Hébreu 4, verset 1, craignons donc d'avoir de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu différent en allemand. Que nous ayons de la joie. Frère? C'est la crainte. Parfois, il nous manque cette crainte. On est si libre de faire tout ce qu'on veut. Quand tu as peur et que l'examen vient, Alors là, tu apprends. Et qu'est-ce que tu fais d'autre d'apprendre? Tu apprends. T'étudies. T'étudies. Mais si nous n'avons pas de crainte, on peut faire beaucoup de choses. Il n'en met pas de la théologie de la crainte, mais c'est est-ce que j'ai cette crainte du Seigneur? Si oui, alors je vis sûrement totalement différent. Est-ce que je vais me préparer? Je vais me demander, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je plais au Seigneur s'il revient aujourd'hui? Est-ce que je plais au Seigneur si je dois partir maintenant? Est-ce que ma vie est une vie du royaume? Est-ce que mon couple plaît au Seigneur? Est-ce que ma vie au travail plaît au Seigneur? Est-ce que ma consécration elle plaît au Seigneur? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mon esprit est brûlant? Est-ce que j'obéis au Seigneur? Pierre a dit, quelle conduite nous devons avoir en piété, en conduite sainte et en piété. Ça, c'est les questions que nous devons nous poser. Si nous avons vraiment la crainte du Seigneur, on a besoin de cela. Alors, on viendra vraiment au Seigneur. Alors, on peut vraiment venir au Seigneur et pas se retirer. On a écrit ça de venir au Seigneur pour expérimenter une guérison. La préparation, c'est de vivre dans le royaume des cieux. À quoi est-ce que ça ressemble si tu vis dans le royaume des cieux? Matthieu 5 à 7, on a écrit ça, la constitution. Ça, c'est, on voit à quoi ça ressemble si nous nous préparons vraiment. En printemps, on a parlé de cela et j'ai regardé en arrière. Maintenant, on est en août. La conférence de printemps est en avril. Et je demandais au Seigneur, dans ce que tu dis dans ta parole, dans Matthieu 5 à 7, dans ma vie, est-ce que j'ai été changé? Est-ce que ma vie, aujourd'hui, elle est plus proche de la parole de 5 à 7, à ce que c'était en avril? Est-ce qu'il y a eu de la guérison? C'est si important de se poser cette question. Louez le Seigneur. Chacun d'entre nous peut se poser cette question et lire la parole. J'espère que le Seigneur puisse œuvrer plus rapidement en nous. Je suis si content. Ce que le Seigneur a changé pendant les dernières semaines. C'était vraiment bon, louez le Seigneur. Si tu vois que ta préparation a des progrès, comment est-ce que je dois dire? Alors à la crainte, il y a aussi une joie.
Amen.
La crainte ne part pas, mais avec la crainte, il y a aussi la joie. Mais si dans ma vie, je ne vois pas ces changements, alors je veux vraiment commencer à collaborer avec le Seigneur et dire, Seigneur, je viens à toi. Expose en moi. Montre-moi où est-ce que je suis vraiment. On peut lire un verset ensemble. Matthieu 5, verset 20, je vous le lis, qui parle de l'entrée dans le royaume des cieux. C'est le titre principal de la conférence. Il dit, le Seigneur, car je vous le dis, Matthieu chapitre 5, verset 20, si votre justice ne... C'est pas si ma connaissance, mais si c'est votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, il n'est pas dit vous n'entrerez peut-être pas. Là, il dit vous n'entrerez point. C'est avec garantie. vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'elle est l'entrée dans la récompense? Très résumé très brièvement, c'est la justice. Et ce n'est pas n'importe quelle justice, mais c'est la justice qu'on voit dans Matthieu 5 à 7. Christ, notre justice. Personne d'entre nous ne peut accomplir cette parole par lui-même. Mais nous devons venir au Seigneur. Si on a la crainte du Seigneur et que nous voyons, il y a besoin de cette justice, cet amour pour les ennemis, la prière et le jeûne pour le plan de Dieu. Je me suis demandé, est-ce que je prie plus maintenant depuis avril pour le royaume du Seigneur? Ça, il en vient de la justice, l'aspect de la justice. Est-ce que je me consacre plus? Est-ce que je jeûne encore plus pour le royaume? Est-ce que je sers le Seigneur plus? Est-ce que je suis libre de soucis, mais je suis plein de soucis? Ça, c'est cette justice. Et ça, c'est en Christ. C'est pourquoi c'est si bon de vraiment venir au Seigneur et de racheter le temps qui nous reste pour nous préparer pour ce royaume. Et maintenant, on aimerait parler combien ce royaume est proche. Et là, il y a beaucoup de choses où on ne va pas avoir tout en une fois. On va voir dans la parole. Il y a une révélation dans Daniel 9. Et cette prophétie parle de la première et de la deuxième venue de Christ. Moi, je vais juste montrer. Il y a une prophétie de 70 semaines. Et les premières 69 semaines montrent quand le Christ revient pour la première fois. Ça, c'est les premières 69 semaines. Et les dernières de la 70e semaine, elle est ici. Elle nous montre quand le Seigneur revient, la deuxième venue. Dans cette révélation de ces 70 semaines, la première et la deuxième venue de Christ, elle a été clairement annoncé avec un temps. Et entre deux, il y a la nouvelle alliance. En bas, on voit les années. Là, dans ces semaines, c'est pas seulement une semaine, mais c'est 7 ans. Là, encore plus. On voit dans la parole, quand le Seigneur est venu la première fois, il n'a pas fait quelque chose comme ça, mais le Seigneur, lors de sa première venue, il a accompli tous les aspects importants. Il a fait tout ça pendant les temps des fêtes, comme c'est exactement décrit dans la Bible. Il y a un chapitre dans Lévitique, il parle des 7 fêtes que Dieu a données à son peuple. Le mot des fêtes, et en hébreu, signifie c'est un temps fixé. Il n'en vient pas qu'il y a un rassemblement de joie, comme on le comprend nous, mais les fêtes, mais c'est des temps de fixer. Et on voit, quand le Seigneur est venu, ils ont vraiment annoncé le jour de sa crucifixion pendant ce temps exact, pendant le jour de la fête, il devait être crucifié. Et ensuite, le Seigneur, exactement, pendant la fête des prémices, il est ressuscité. Le 16e jour de Nissan, il devait être ressuscité. Quand c'est que ça a été fixé? Ça a été annoncé 2000 ans avant, pendant pour les fêtes de l'Éternel. Le Seigneur était toujours exact. Et ensuite, il a attendu 50 jours jusqu'à ce que l'Esprit ait été déversé. C'est un très long temps, 50 jours, pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur, après la résurrection, il n'a pas envoyé l'Esprit et commencé l'Église? Parce que le Seigneur ne pouvait seulement verser l'Esprit quand le temps fixé était arrivé, ce temps, c'était la fête de la Pentecôte, et ça s'était fixé. 50 jours, pas avant, pas après. C'est exactement pendant le temps des fêtes. Il aurait sûrement bien voulu le faire avant, mais il ne pouvait pas. Ça, c'est ce qui parle de la première venue du Seigneur. Et maintenant, on voit de cette 70e semaine, le livre de Daniel, il dit qu'à la fin des temps, il y aura un roi des nations. Pas un roi des Juifs, mais un roi des nations qui fera une alliance, un contrat avec beaucoup. Les beaucoup sont les Juifs et les Arabes. Dans Daniel 9, il en vient du peuple d'Israël. Semaine, c'est 7 ans, c'est la dernière semaine. Et quand ce temps arrive à la fin, et là, le royaume des 1000 ans commence. C'est la période avant le royaume des 1000 ans. Et ce temps commence avec cette alliance. Ensuite, on voit ces 7 ans, ils sont séparés à la moitié. Et la deuxième partie, c'est le jour de la colère de Dieu. C'est le jour de jugement pour tous les habitants de la terre. Pendant ce temps, il y aura 7 trompettes qui amènent le jugement sur tous les hommes. Aussi 7 cornes, c'est des jugements qu'on n'a encore jamais vus. Et ça dure 3 ans et demi. Et au début de ces 7 ans, il y a cette alliance qui est là. Ça, c'est important. Là, il y a cette alliance qui est faite. Tout ce que le Seigneur a fait pendant sa première venue, exactement après les fêtes, aussi pour sa deuxième venue, le Seigneur va aussi planifier ce temps pour continuer de se fixer à cela. Et on voit les dernières fêtes sont toutes au septième mois. Ça a tout ce qu'à voir avec l'accomplissement du plan de Dieu. Et c'est pourquoi c'est sobre de voir que la fin de ce temps, il va vraiment être marqué par la fête des tabernacles. Ce ne sera pas n'importe quand, mais quand ce temps vient, le Seigneur va mettre fin à ce siècle. Pourquoi? Parce que cette fête des tabernacles, c'est la fête que dans le royaume des 1000 ans, ils vont célébrer l'accomplissement de ce royaume. Et cette fête est seulement une fois par année, et c'est en octobre, en général. Si nous savons que c'est en octobre, alors avant ces 7 ans avant, ça doit aussi être en octobre, en automne, entre septembre et octobre. Et là, ça doit être là où cette alliance est faite. Parce que les fêtes sont le temps de Dieu, c'est les délais de Dieu. C'est comme ça que nos dieux traitent. Et ensuite, on voit, au milieu de ce temps, avant le jour de la colère de Dieu, Apocalypse 14 dit qu'il y a l'enlèvement. L'enlèvement des prémices. L'enlèvement des prémices qui se sont préparées. Ça, c'est pendant la moitié du temps, avant que le jugement vienne. Ça, c'est en printemps. L'enlèvement des vainqueurs fidèles, c'est pas n'importe quand, mais c'est en printemps. Tout le reste qui reste, les croyants, c'est pour eux à la fin du temps. Ensuite, on voit qu'on vit dans un temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui doivent vraiment nous réveiller. Ici, on a écrit l'hypothèse que Trump fasse le traité de paix, l'alliance. Pourquoi est-ce qu'on vient à cela? On voit la première année de sa son élection. Il a décidé de déplacer l'ambassade à Jérusalem. Et ça, c'était exactement 50 ans après. 50 ans, c'est vraiment un chiffre très important. C'est quand il revenait la conquête, la prise de Jérusalem. C'est exactement dans une telle année comme ça que Jérusalem est revenu à Israël par la décision de ce président. Et après, par cela, l'Institut du Temple à Jérusalem ont fait cette pièce pour le Temple avec l'image de Trump et avec l'image de Cyrus. Parce que par cette étape, ils croient, ils ont été inspirés que lui, il peut les aider à construire le Temple. Ensuite, on voit en mai, l'année passée, il y a l'ambassade qui était ouverte. Le chiffre 70, on connaît. Après 70 ans, le peuple, il est revenu de la captivité. Et ça, c'était un grand jour pour toute la nation d'Israël. Et cela doit se passer pour que le Seigneur puisse revenir. Et ensuite, on voit à quoi est-ce qu'il travaille. C'est le deal du siècle. C'est pas seulement du siècle, mais des mille ans. C'est le traité de paix. Où la première part a été ouverte il y a 2 mois. Il y a 2 mois, à Bahreïn, la première partie, elle a été ouverte et beaucoup de nations, comme dans Daniel 9, des nations arabes ont été rassemblées pour parler de ce plan. Et maintenant, on voit le mois passé, ce plan de paix entre Israël et Palestine, il va seulement être accompli si lui, il est président. Et ça montre quelle décision il a d'accomplir ce but. Et hier, il a parlé que toutes les dirigeants ils sont invités pour aller aux États-Unis pour parler de la deuxième partie de la partie politique du plan. Maintenant, il aimerait encore faire en septembre avant les élections, peut-être même encore ce mois. On voit que tout ce développement, il y a vraiment des raisons de voir. Ça peut très bien être que Dieu a mis cet homme pour faire cette alliance dont Daniel a parlé. Et si on voit ça, et si on prend cette hypothèse que Trump va faire ce traité de paix, Il a commencé en janvier 2017 sa présidence. S'il est à nouveau élu en janvier 2021, il peut commencer sa deuxième phase de sa présidence. Il est nouveau élu jusqu'en janvier 2022. Et après deux périodes, c'est plus possible d'être élu à nouveau. Il a au maximum deux temps de présidence. Alors à la fin, ça pourra s'arrêter en janvier 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? Si Dieu nous donne le temps maximum pour nous préparer pour le venu du Seigneur, pour son retour, alors le dernier temps possible pour l'enlèvement des prémices, et que ça arrive pendant Trump, ce sera le printemps 2024. Ça, c'est un point important. Ensuite, ça doit aussi être qu'au plus tard, que l'année prochaine, en automne l'année prochaine, que le traité de paix soit signé. Ça, c'est seulement une année juste depuis aujourd'hui. Si Dieu nous donne le temps maximum, c'est si Dieu nous donne le temps maximum, et puis si Trump est celui que Dieu a choisi, si c'est encore moins, ben ça peut encore venir cette année, ça on ne le sait pas. Si on va par ça, alors ça veut dire qu'on a encore 4 ans et 9 mois avant que le Seigneur reprenne les prémices de cette terre. Ce n'est pas beaucoup de temps. Ça, c'est important pour nous. Afin que nous ayons une saine crainte et que nous puissions nous préparer. Parce que le Seigneur vient très bientôt. Pour résumer ça très brève, vraiment nécessaire que le Seigneur nous donne pendant ce temps, c'est-à-dire Seigneur, j'aimerais me préparer pour ton retour. Si nous ne sommes pas enlevés à ce temps, c'est aussi impressionnant. Pendant ce temps, c'est aussi la fête des prémices. On peut calculer depuis la fin. Si on fait moins des jours, on arrive alors pendant la fête des prémices. Ce ne serait pas étonnant si le Seigneur enlève les prémices pendant la fête des prémices. Plus très loin. Nous sommes vraiment veillants et sobres, vraiment de réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire avec le temps qu'on a, qu'est-ce qu'on veut encore faire jusqu'en automne 2020 ou bien jusqu'en printemps 2024, voyager dans le monde, faire des vacances, ou bien entrer dans le royaume des cieux. C'est bien d'avoir cette image devant les yeux, d'avoir une sainte crainte, parce que le temps est proche et il travaille rapidement. Et nous, comme Pierre a dit, nous devons avoir une telle attitude d'attendre la venue du Seigneur et de l'hâter pour aller plus vite de l'avant avec lui, afin que nous puissions être prêts pour la fête des prémices quand le Seigneur vient. Pour venir chercher les prémices. Louez le Seigneur. Amen.